recrues.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance en Périgord Noir et sur la toile mondiale, n'est-ce pas, www.radioperigueux103.com. Donc, en ce jeudi 13 janvier, nous parlons de lutte des peuples en prévision du Forum Social Mondial. La lutte des peuples contre, bien sûr, le capitalisme et l'impérialisme en Afrique et ailleurs.
Donc ce Forum Social Mondial, ça se tient du 6 au 11 février prochain à Dakar au Sénégal. Donc à cette occasion, on va relayer une conscience critique autonome et radicale qui est portée par le mouvement des sans-voix au Mali. Donc le mouvement des sans-voix qui a pris publiquement position en vue de perturber ce qu'il appelle le spectacle contestataire qui est devenu le Forum Social Mondial. Donc pour ce faire, on a des documents, on a un film qui s'appelle « Depuis l'école publique de Djelibougou, commune 1 à Bamako » et un texte qui date de novembre et qui s'intitule « Le FSM 2011 ou la grande exhibition des réseaux ».
Le FSM, Forum Social Mondial, vaste mouvement des peuples pour la justice sociale, a été une initiative à la fois rénovatrice, historique et dynamique. Cependant, le FSM n'est pas un fait du hasard. Il est la suite logique des luttes des peuples contre toutes les formes de domination impérialiste et capitaliste. Le FSM, au départ, a permis la naissance et le renforcement, tant au niveau national qu'au niveau international, des mouvements et organisations de lutte pour la défense des droits humains et pour un monde alternatif au système capitaliste. Il a suscité de l'espoir dans de nombreux pays et pour des milliers de personnes.
Grâce aux efforts, au courage, à la clairvoyance des peuples en lutte contre la domination impérialiste, la mondialisation des luttes n'a été qu'une réponse ferme à la mondialisation néolibérale et capitaliste. Malgré tout, au fil du temps, les crypto-forums se sont multipliés comme des champignons qui poussent et tombent tels des feuilles séchées. Cela ne se fera pas sans risque. Des individus, des organisations, des réseaux, connus par leur sectarisme desséchant en Europe, se sont réunis et ont alors noyauté, infiltré la lutte des peuples, en ont fait leur fonds de commerce et leur business sur le dos des peuples opprimés. De par leur position, ils se sont spécialisés et expertisés dans le lobbying, la recherche de financement. Ainsi, ils affichent leur arrogance certaine vis-à-vis de ceux qui prétendent soutenir et aider. Ils se positionnent en donneurs de leçons de principes, de stratégies, de mobilisation et de discours à tenir. Ces réseaux, type Novox, livrent ainsi entre eux une lutte féroce pour davantage garder et consolider leur chasse gardée. Ils se servent des associations au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Congo, pour non pas les aider et les soutenir face à la répression de la bourgeoisie nationale et les dirigeants alliés du capital financier international, mais seulement consolider leur position, développer leur renommée. Ainsi, les carnets d'adresses garnis et remplis, ils voyagent un peu partout en Afrique et ailleurs, multipliant les forums, au Mali, au Burkina par exemple, pour qu'ils puissent se tailler un rang prestigieux au sein du FSM au moment du bilan. Ils animent des conférences, des séminaires, des colloques, et se transforment ainsi en des pires experts, comme ceux des institutions financières internationales qui visitent les pays, et dressent quelques rapports dans des hôtels 4 étoiles, et décident ainsi du sort des peuples africains. Ils ne se limitent pas là. Ils se mêlent entre frères et sœurs d'un même pays, d'un même continent, pour les diviser davantage, et faire échouer des luttes locales, dans le but de les orienter vers la lutte stérile, afin qu'eux puissent rebondir toujours, toujours et toujours.
Face à ce type de réseau, le mouvement des sans-voix adhère aux mobilisations sociales et aux préparatifs organisés. Ils œuvrent par les organisations africaines en toute autonomie des réseaux clientélistes et les comités d'organisation du FSM, tant au niveau mondial, continental et même national. Dakar est une est une étape importante dans la lutte contre le système néolibéral et non un lieu d'exhibition et un tournant décisif pour la survie des réseaux et des prétendus leaders d'opinion. Le mouvement des sans-voix, sans chercher à s'exhiber ni à faire des démonstrations spectaculaires et pompeuses, fera de Dakar un lieu de résistance et de lutte permanente des peuples de l'Afrique, jusqu'à la victoire de l'homme sur le capital, à dégager ensemble, dans le long terme, des stratégies de lutte et des perspectives alternatives à la mondialisation. Les frères et sœurs sans voix, de l'Afrique et d'ailleurs, vous valez mieux qu'une vaste armée d'hommes et de femmes importée et exportée à Dakar par la grâce des réseaux. Que nul n'oublie notre férocité de militants anticapitalistes et pour une Afrique digne et prospère.
Donc voilà pour ce texte dont on a lu des parties. C'est le texte de Taïrouba, qui est secrétaire général du mouvement des sans-voix, qui date de novembre. Donc on pourra retrouver ce texte, on vous mettra les liens sur l'audioblog. Ce texte et d'autres documents liés à ce dont on parle ce soir. Donc l'audioblog, on rappelle l'adresse, c'est audioblog.arteradio.com/fort-et-reclus à l'Elysée.
Le tout attaché et sans accent.
Donc outre ce texte, il y a une lettre de Dakar aussi qui vient d'être rééditée afin de rafraîchir la mémoire historique des gens du Sénégal. Et il y a à visionner, à télécharger et à diffuser le film qui s'intitule « Depuis l'école publique de Djeli Bougou », qui en fait qui reprend, qui documente un peu le deuxième forum des 100 qui a eu lieu à Bamako les 25, 26 et 27 juin 2010.
En même temps que le G8
se tenait au Canada. Le thème central de ce forum, c'était « Quel bilan du développement de l'Afrique en 50 ans d'indépendance à travers le cas du Mali ?» Et donc ce film dont on va vous passer l'intégralité de la bande-son, donc en deux parties, ce soir et dimanche midi, à midi, donc soyez bien à l'écoute de Radio 103.
Ça sera la suite, oui.
Ce film, ça peut servir. Ce film qui documente donc ce forum des 100, ça peut servir de base théorique et d'action pour donc ce forum social mondial qui s'annonce dans un mois à Dakar. Alors que s'annonce aussi en Europe et même en France le prochain G8 et le prochain G20, puisque cette année c'est le tour de la France
d'organiser,
d'accueillir
tout ce beau monde. On va dire.
Donc, ce qu'on va entendre maintenant, on va lancer la bande-son. C'est l'introduction de ce film qui se découpe en plusieurs parties.
Il y a la présentation déjà du forum.
Et ensuite, il y a une première partie qui se concentre sur les aspects économiques de. Voilà. Une partie qui s'intitule « Au pays de l'or noir » et une partie qui s'intitule « Le capital ». C'est parti.
Bonne écoute.
Aujourd'hui, pour nous, le capitalisme mondialise sa lutte contre les pauvres. Nous, les pauvres aussi, nous devons mondialiser notre combat pour que les G8... qui se retrouvent à ce moment-là même au Canada pour décider de manière illégale et illégitime de l'avenir de toute l'humanité et de l'environnement. Nous pensons que c'est à ce moment que nous soyons nombreux ou pas, nous aussi nous devons être là depuis Bamako en commune 1 dans l'école publique de Djeli Bougou pour que notre voix soit une voix de résistance à ces politiques néolibérales. Nous sommes convaincus que toute action ou toute décision que les G8 vont prendre aujourd'hui auront des répercussions négatives sur les populations et nos États africains. Aujourd'hui, 50 ans d'indépendance pour nous doit nous permettre de poser les débats pour que nous puissions arriver à une analyse objective par rapport à tout ce qui nous arrive aujourd'hui en tant qu'être humain, parce que pour nous, le bien le plus précieux sur cette terre, c'est l'humanité et la terre elle-même. Le Forum des Saints est un espace d'expression démocratique, populaire, alternatif, autonome et anticapitaliste. Pour qu'il y ait un regard critique par rapport à tout ce qui se passe, tant à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur. Le Forum des Saints est un espace de lutte concrète, de convergence, de lutte pour tous les saints, les sans-terres, les sans-logis, les mal-logés, les précaires, les chômeurs, les ouvriers, les paysans. Le Forum des Saints n'est pas un espace d'une rencontre entre experts ou entre militants professionnels, mais le Forum des Saints est là pour les saints, avec les saints et par les saints. Aujourd'hui, 20 ans après que les Maliens, toutes classes confondues, aient descendu dans la rue, chaque jour et au prix de leur vie, pour renverser la tyrannie, la dictature et le monopartite. Donc, nous, nous pensons que 20 ans, l'instauration de la démocratie pour nous n'était pas une question d'élection ou de vote. Nos droits ne doivent pas se limiter à ces deux exercices classiques, n'est-ce pas, qui d'ailleurs consolident la démocratie bourgeoise. Pour nous, la démocratie, c'est l'accès des peuples à la santé, c'est l'accès des peuples au logement décent, le droit à la terre, bref, à la vie elle-même. C'est ça la démocratie pour nous. Et tant que la démocratie n'arrive pas à assurer à ces populations ces biens fondamentaux de l'homme, nous sommes convaincus que cette démocratie va simplement et purement disparaître pour laisser place à une démocratie, n'est-ce pas, du peuple. Il faut que les sangs de tous bords se retrouvent pour qu'il y ait la solidarité qui, à notre yeux, est une condition sine qua non de la libération des peuples du joug du capitalisme financier international. Je déclare ouverte la deuxième édition du Forum des Saints, avec les saints, par les saints et pour les saints. Je vous remercie.
Je pense 50 ans d'indépendance pour nous, rien n'a été fait. Ça devrait être un bilan pour tous les Maliens. Et non la caravane de l'intégration. Quelle caravane de l'intégration? Nous, nous n'avons pas pris notre indépendance dans la danse. Hein? On a pris notre indépendance. Je pense que les gens ont osé que ce pays-là soit évité d'être esclave. Et je pense que c'est eux qui portent ces fruits-là. Ils cherchent à nous ramener à cet esclavagisme. Nous ne sommes pas d'accord.
50 ans d'indépendance de la caravane, ou bien des statues, monuments, ou bien des petits cadrans au Bamako seulement. Étant donné que Bamako seulement, ce n'est pas le Mali.
Les ressources naturelles, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les multinationales. Il est temps à dire à l'État, nous ne sommes pas d'accord de leur manière pour fêter notre cinquantenaire. Nous ne sommes pas contents de cela. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je pense que le forum sera un espace pour bien déterminer le reste. Et je vous remercie.
Merci aux jeunes qui ont pensé vraiment à organiser cette journée pour faire entendre leur voix, pour rappeler les puissances qu'il n'y a pas de puissance sans la base. Je pense qu'après la jeunesse, la couche la plus vulnérable, c'est les femmes. Et ici, je parle au nom des femmes. Aujourd'hui, avec les G8, les G20, les grandes puissances qui parlent à notre nom, viennent nous imposer certaines choses. C'est pourquoi, en l'exemple sur l'éducation, l'éducation malienne est ratée. Parce que ce sont des décisions qu'on prenne et qu'on ne tient pas compte de nos réalités. C'est ce qui fait souvent des blocages dans notre société. Et c'est les femmes en général qui en pâtissent. Parce qu'elles sont au four et au boulet.
Ce sont les plus riches qui se réunissent d'abord pour décider des problèmes que nous avons, les questions alimentaires. On a vu à la télé hier, au niveau du Niger, comment les personnes sont en train de mourir, comment les animaux sont en train de mourir. Au niveau du Mali, tout le monde sait ce que vaut le prix du riz. Les questions liées à la santé maternelle et infantile, c'est eux qui vont décider à notre place. Moi, je pense que cela est injuste. Et c'est pour cela que je suis là pour soutenir cette initiative des jeunes, cette initiative des sans voix.
Nous nous sommes dans une situation où nous avons été expropriés, expulsés de nos maisons, déguerpis de nos maisons. Et pour quelle cause? Pour une politique. On assiste à l'expropriation pure et simple. Toi, tu n'as pas le droit d'aller déguerre, oust, va-t'en, comme si tu étais un chien. Sans avertir, sans informer, sans discussion, sans négociation. Et avec des titres fonciers à la main. Nous sommes devant une situation qui est extrêmement grave. Nous dénonçons le G8. Mais le G8 qui est au Mali ici, il faut qu'on en parle. Mais le G8 chez nous. Le G8 c'est quoi? Au Mali, c'est un regroupement d'hommes riches qui nous dirige également. Ce club d'hommes riches est en train d'agir comme si certains Maliens n'ont pas le droit d'être des Maliens, comme s'ils n'ont pas le droit d'être des citoyens à part entière.
Je suis là, je parle au nom des entreprises qui ont été privatisées, parce que ça fait beaucoup de mal, c'est-à-dire des familles qui ont été détruites. La pétrole a été privatisée en 1993. C'était une société entreprise d'État qui marchait très bien. Et de 93, bon, nous sommes actionnaires dans la société. Mais l'actionnaire majoritaire, il fait des licenciements abusifs comme il veut. Si on part devant la justice, même si on nous donne raison, la cour d'appel nous a donné raison pour qu'on nous paye nos droits. Mais jusqu'à présent, l'actionnaire majoritaire refuse. L'État est bien au courant de la situation. Il refuse de nous payer nos droits depuis 2006. Et maintenant, ils ont commencé à faire autre chose encore, de faire un licenciement pour motif économique. Motif économique que l'actionnaire majoritaire même a créé. C'est certains Maliens seulement qui bénéficient de cette situation aujourd'hui. Sinon, nous autres, vraiment, ça ne va pas. Nous ne sommes même pas des Maliens, je pense. C'est ça.
Moi, je suis Mohamed Abdoulaye Niang. Je représente l'association malienne des expulsés. Notre association a vu le jour en 1996 lors des expulsions massives et continues en Afrique et partout dans le monde. Donc face à cela, les expulsés se sont organisés pour prendre leur droit. Et notre association a pour rôle l'accueil, l'hébergement temporel, l'accompagnement médical, social, juridique et des migrants du retour, mais aussi le plaidoyer et la défense des droits des migrants.
On voit des migrants économiques qui veulent partir en Europe, des Maliens expulsés un peu partout dans le monde aujourd'hui, les sans-papiers, nous sommes aussi des sans.
L'histoire de l'humanité est un processus continu de la nécessité vers la liberté et qui parle de liberté, pas de lutte.
Vous avez parmi vous ce matin des étudiants qui partent travailler devant les Chinois de 8h à 17h30 pour une somme de 1000 francs. On est en train de former des églises sociaux dans ce pays-là pour l'avenir. Je ne vous mens pas. Hein. Quand ils vont au campus aujourd'hui, même il y a des gens qui n'ont pas de couscous. Il n'y aura jamais la paix et la liberté tant que les dirigeants africains ne mettent pas les pieds sur terre. Et il est temps, s'ils refusent de mettre les pieds sur terre, nous devons mettre les pieds sur terre. Madame vient de dire, nous sommes là pour dénoncer. Moi, j'ajoute, nous sommes là aussi pour réagir.
faut pas dénoncer seulement. Il est temps de réagir. Vraiment, je m'appelle à vous tous de multiplier l'effort, de multiplier les actions, de multiplier la lutte pour notre liberté. Nous restons optimistes car nous savons que la vérité a le pouvoir sur le mensonge.
Bega gentil la dunyan kono sabu mogo be ga yele maga ke warawye waraw be ga yele maga ke mogoye waran be ga mogo ga bagron nemne kelengele waran be bagron tigude ko nu klala bawla be tigada batuka dubu tigiga chilane do We'll be right back.
se répartissent entre les deux régions, la région de Kaye Sikasso. La mine de Sayola, Yatila, qui se situe aussi à Kaye, Loulou à Kaye, Tabakoto. Et ensuite, à Sikasso, nous avons Morila, Kalana, Kodjeran et Siama. Il y a d'autres ressources qui sont en gestation, telles que le pétrole. Il y a l'existence de 5 bassins pétroliers. Et les bassins pétroliers sont surtout vers le nord et puis la région de Koulikoro. Et puis d'autres industries, d'autres ressources, telles que la bauxite, le fer, le calcaire et autres. L'installation, l'exploitation d'une mine entraîne obligatoirement des conséquences négatives sur les communautés locales. Quand une mine s'installe, ça entraîne obligatoirement des déplacements involontaires des populations. Les populations se plaignent, les agriculteurs se plaignent, ils se disent que vraiment, nous ici, c'était notre terre, c'était vraiment une terre fertile, mais avec l'installation de l'usine, alors on nous a exproprié ça et puis on ne nous a rien donné en fin de compte. L'industrie extractive utilise des produits chimiques très toxiques et ces produits chimiques, généralement, l'usine travaille plus, ça s'infiltre dans le sol. On entend sur les sites miniers qu'il y a eu des avortements, des maladies qu'on ne sait même pas. Bon, vraiment, c'est des maladies qui sont venues avec l'installation de la mine. Le bassin à boue, on dit que ce bassin, l'eau qui va dans ce bassin est vraiment de l'eau traitée. Est-ce que la direction chargée de la pollution de l'eau ou du contrôle des nuisances, est-ce que cette direction procède réellement à ce contrôle? Point d'interrogation. L'État dit que toutes les précautions sont prises, les communautés disent ah non, vraiment chaque jour on a des animaux qui meurent à la suite de cette eau. Généralement au niveau des compagnies, vous trouvez qu'il y a des actionnaires. Sayola par exemple, il y a Semos, il y a Mouman et il y a SFI, TEFI. Et puis qui est une filiale de la Banque mondiale. Et c'est là où les gens ont des inquiétudes. Comment est-ce que la Banque mondiale qui est là, qui établit des règles que les autres compagnies doivent respecter, est aussi actionnaire dans une des sociétés.
Tout ce qu'il a dit, c'est plus pire que ça même. Lui, il a modéré. Il a modéré dans la vie des miniers. Il a modéré, mais c'est vrai. C'est plus que ça même. On classe le Mali troisième producteur de l'or. Et je ne peux pas comprendre que le Mali vive encore dans cet état-là. J'ai travaillé dans la mine. Je faisais partie des qui créent ces trous-là. Des gens où la multinationale utilise ces gens-là comme des esclaves. Moi, je fais les tests. Hein. Il y a bel et bien des cyanures et arsenic dans les pieds. Parce qu'il faut imaginer, on crée jusqu'à 250 mètres de profondeur. Déjà nous, on atteint les nappes souterraines. Et on est en train de travailler les produits chimiques dans les mines. Imagine à 250 mètres, le prix déjà là-bas c'est 10 mètres. Nous, on épuise tout l'eau de souterraine. C'est vrai que les villageois ont des problèmes de l'eau. Non seulement il ne peut pas boire et puis il ne trouve pas. Il fallait que nous on fasse la grève à Morila et qu'il amène les robinets dans les quartiers. On a posé la question, les animaux en train de mourir. Ils ont dit non, les animaux et les individus sont différents. Ceux qui tuent les animaux ne tuent pas l'homme. La femme de mon grand frère, il a accouché en 2005. Mais son enfant là, les médecins ont fui parce qu'ils pensent que c'est un phénomène. Ce n'est pas une question à rire, c'est vrai, c'est la réalité. Nous, on n'a pas osé pour rien. Et on a vu, on est en train de mourir un à un. Aussi. Sur la mine là-bas, nous, accident un peu les produits parce qu'il y a arsenic et cyanide. Et bien, ce matin, on nous a dit que c'est le soleil qui tue, les rayons du soleil qui tuent les microbes de cyanide et arsenic. Étant donné qu'on travaille pendant la nuit, si on travaille pendant la nuit, est-ce qu'il y a le soleil en ce moment? Hein? C'est 24 heures sur 24 heures. C'est le temps de bilan maintenant pour montrer à l'État qu'est-ce qui se passe dans la mine. Parce que c'est l'État même qui a favorisé les multinationales. Il donne l'exonération aux multinationales. Pendant 5 ans, il ne paye pas des taxes. Parce que Morila est prévu 120 tonnes d'or pendant 11 ans. Ça, c'est écrit dans le cahier des charges. Maintenant, de 2000 en 2003, nous avons sorti 83,215 tonnes. Déjà la majorité, soit 50 tonnes de plus. Et nous avons fait un document, on a déposé à la présidence et puis au primature. Ce qui est en train de travailler et ce qui est en train de faire à la mine. Et celui Mangala, il était très content, mais en nous menaçant, en disant que si jamais ce qu'on est en train de dire, si c'est faux, on va prendre le pot cassé après. Hein. Et nous avons dit oui. Il a déplacé les gendarmes d'ici, hein, quand ils sont venus au site minier pour faire leurs enquêtes. D'après eux, ce qu'ils ont trouvé là-bas, c'est plus pire que ce que nous on a dit. Et puis il y a deux avions là-bas. Un avion qui prend leur trafic là. Ces avions ne viennent pas au Rumanco. C'est directement de Morila à Sud-Afrique ou bien de Sadiola à Dakar, il va Ghana ou bien Sud-Afrique. Et Morila, c'est Côte d'Ivoire directement à Sud-Afrique. Mais l'avion qui transporte l'or du peuple, ça se vient à Bamako. Sincèrement, nous avons dit, bon, si l'État ne réclame pas les seuls droits, nous, on va réclamer nos droits. Les 5 jours du matin, on a déclenché une grève. En ce moment, nous, on est affiliés à l'interne. Ils ont demandé un soutien de 7 millions 400 000 d'après le directeur, lui il était très content, il a donné 8 millions à elle. Et voilà le jour de la grève, les membres de l'INTEM sont venus dire que nous avons fait la grève illégale. Quelle sorte de grève illégale? Après avoir reçu 7 millions 400 000, on a montré ça à la foule. C'est une femme qui a sauvé ceci là. Parce qu'ils ont dit non, ils n'ont pas pris. Mais cette dame-là a eu le courage de s'exciser devant les foules en disant qu'ils ont pris. Et c'est en ce moment que l'interne a eu la chance. Ce n'est pas elle qui devrait être le premier mort sur le terrain. Et je suis. J'ai les regrets aujourd'hui pour qu'on n'a pas voté l'interne. Je reconnais que j'ai les regrets aujourd'hui pour qu'on n'a pas voté l'interne. Davantage, ça a trouvé que. On a fini la question de l'INTEM. Parce que moi, je considère plus l'INTEM comme syndicaliste. Je considère l'INTEM comme préférer et attirer les travailleurs davantage. Parce que j'ai tout le preuve sur eux. Je n'ai pas parlé des menaces que l'État nous a fait. Ils nous ont menacés. Et moi-même, j'ai fait un mois et six jours en prison. Nous, on ne se déclenche pas. Parce qu'après la prison, c'est là qu'on a dit que le combat n'a que commencé. 5 ans de vie, ce n'est pas facile à tout expliquer. En ce moment, on ne peut pas dire que le Mali, c'est un pays pauvre. Parce que 120 tonnes d'or, déjà, ça, c'est un acquis. L'or, c'est à 1000 et quelques dollars. Ça, on sort l'or ici en état brut. Et on fait la raffinerie. Soit sur l'Afrique, soit Ghana. Sans savoir, mais l'argent est plus nombreux que l'or. L'argent est plus nombreux que l'or. Mais ils s'en foutent. Ça, ce n'est pas souligné dans les cahiers de contrat. C'est comme le multinational profite ça beaucoup plus que l'État malien. C'est, voilà, c'est leur bonus d'après. Pour moi, les Mali profitent la poussière de la mine d'or. Et non l'or même. Donc à ce moment, on ne peut pas parler que les peuples profitent l'or.
Donc sur ces questions d'énergie, nous pensons que l'Afrique peut se mettre debout, peut vraiment faire face aux défis de l'avenir en voulant vraiment statuer sur un code minier et des ressources naturelles unies pour toute la sous-région. Aujourd'hui, 20 minutes de rayonnement solaire suffisent pour alimenter la Terre d'une année de toute l'humanité. Nous pensons que la conviction, on ne va pas la perdre, Inch'Allah. Donc le combat est vraiment international. Merci beaucoup.
D'après Thomas Sangara, là où ça va, les découragements célèbrent la victoire des persévérants.
L'espoir, je pense que nous avons l'espoir parce qu'il y a des hommes conscients.
Battez-vous pour vos droits, pour vos droits. à la dette extérieure pour investir pour le développement. Mais pour les pays du tiers-monde, cette dette est parfois un obstacle pour le développement, comme le cas au Mali. Bon, la stratégie de désendettement et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment rembourser la dette. Ce remboursement empêche le gouvernement de satisfaire les besoins des communautés. Mais quelles ont été les recettes qu'on nous a proposées? C'est d'abord le programme d'ajustement structurel. C'est ce que chacun de nous nous vivons aujourd'hui. Il faut augmenter les prix et les tarifs. Il faut fermer ou privatiser un certain nombre d'entreprises publiques. Ce matin, j'ai entendu dire des trains, ça fait partie de ces entreprises. Donc, on avait 90 entreprises publiques créées en 1985, mais la grande majorité de ces entreprises étaient liquidées. Les coupes au niveau des bourses des étudiants, le gel des revenus au niveau de la fonction publique, on appelle ça les déflatés. Donc, il y a eu une diminution des dépenses publiques. Cette politique d'ajustement structurel a été changée à un moment donné, dont on appelle l'initiative des pays pauvres très endettés. Et ensuite, il faut avoir un document de réduction de la pauvreté. Au Mali, c'est le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Donc, pour l'élaboration de ce cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, il y a certaines conditionnalités encore. Comme je l'ai dit, ce n'est que les changements de nom, mais c'est toujours le programme d'ajustement structurel. Au niveau des finances publiques, suppression des barrières douanières, instauration de mesures fiscales avantageuses pour les multinationales. Il y a le désengagement de l'état des services sociaux de base, surtout l'éducation et la santé. L'éducation, c'est dans le privé. La santé, c'est au niveau du privé. Il y a eu aussi la dévaluation du franc CFA qui était une conditionnalité. Et la privatisation de l'assotellement. Il y a aussi la privatisation de la CNDT qui est aussi en cours. Ça faisait partie des conditionnalités. La privatisation de l'UCOMA, ça fait partie des conditionnalités. La vente de l'hôtel de l'Amitié et l'ouverture du capital de l'énergie, entre autres, il y en a beaucoup, le chemin de fer, l'aéroport du Mali, entre autres. La dette du Mali en 2007, c'était 1784 environ milliards de francs CFA. Et avec cette initiative, il y a eu l'annulation de 1,085 milliards de francs CFA. Mais cette annulation, ce n'est pas aussitôt, c'est sur une dizaine, plusieurs dizaines d'années, 40 ans environ, chaque année, ils vont essayer de diminuer. Mais aujourd'hui, si on fait le constat, tout le monde était content quand il y a eu l'annulation de la dette, les gens pensaient que c'est de l'argent frais. Mais aujourd'hui, le constat est que entre 2007 et 2008, le montant de l'encours de la dette, ça veut dire ce qu'on doit rembourser, a augmenté de 17,6%. Et de 2008 à 2009, ça a augmenté de 30,4%. Les multinationales qui viennent, ils ont des exonérations, donc il n'y a pas de ressources.
Est-ce que par rapport à la dette, on ne va pas rejoindre un peu Thomas Sankara en disant qu'on ne va pas payer? Car Mme Barry a fait son exposé, on ne peut plus clair. Mais quelle solution? On est complètement, moi personnellement, je suis troublé, je suis perdu. Alors, à l'entendre parler, ma réponse est tout simplement de dire, on ne peut pas. Parce que comment rembourser et pourquoi rembourser et comment?
Moi, en 86, je suis allé à Ouagadougou, et Thomas Sankara, que je connais très bien parce que nous avons lié amitié. Alors, je suis allé un jour parce qu'il devait me recevoir. Je suis parti, il me dit, mon ami, tu es venu, j'ai dit oui. J'ai dit, mais je viens, vous partez. Il dit, oui, vous partez au sommet. Ah oui, je vais à Harare. Alors, j'ai dit, mais camarade président, mais vraiment, qu'est-ce que vous allez vous dire là? Parce que tout le temps là, Ouyala, ça ne bouge pas. Vous partez, les questions de fond ne sont pas posées. Et puis, vous êtes toujours sous surveillance. Tout ce que vous décidez, tout est lié aux conditionnalités des institutions internationales. Attention, ne touchez pas à ceci. Attention, ne touchez pas à cela. Attention, ne touchez pas à ceci. Attention, ne touchez pas à cela. Il dit, mais justement, moi je vais parler de dette. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez parler? J'ai dit, mais si vous le dites, Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Est-ce que les gens vont être d'accord? Il dit, ah, c'est une mission. François Fanon a dit que chaque génération accomplit sa mission. Si vous ne l'accomplissez pas, vous la trahissez. Moi, je ne vais pas trahir ma mission, je vais l'accomplir. J'ai dit, ben, je souhaite vraiment que Dieu vous protège, mais vous partez là dans un troupeau de loups. Il faut faire énormément attention. Mais puisque vous allez partir, vous êtes flanqué d'un pistolet, j'espère que vous aurez vraiment la capacité de vous défendre. Mais c'est vraiment, vous allez dans un truc de crocodile. Effectivement, comme une prémonition, Sankara a parlé de ce truc, mais vous savez ce qui s'est passé après.
Il nous a été demandé de présenter le thème suivant, l'histoire des conflits en Afrique. L'Afrique est le continent le plus ravagé par les conflits. Avant les indépendances, l'Afrique était constituée de grands empires. Et tout de suite, cette Afrique a une délimitation par les puissances coloniales, ce qui a fait naturellement l'émergence des sphères d'influence par le contrôle des anciens pouvoirs coloniaux et les États-Unis en alimentant directement les conflits majeurs, dont la population civile est souvent victime de viols et de violences.
La France-Afrique n'a pas commencé aujourd'hui, et d'ailleurs, les origines de la France-Afrique, d'autant plus qu'on les a ignorées et même négligées, ont été tellement puissantes qu'ils ont constitué le socle de la perpétuation de ce système sur nous aujourd'hui. Si on voit un peu l'histoire du Gabon, c'est beaucoup plus révélatrice parce que le premier président Léon Ba, n'est-ce pas, fut victime d'un coup d'État, et aussitôt immédiatement, la décision est venue de chef de Gaulle à l'Élysée pour qu'on le rétablisse encore sur son pouvoir. Et ça a été la première forme d'immixtion. Donc l'assistance financière, nous n'en sommes pas sortis, n'est-ce pas? L'Afrique continue de subir la traçabilité des programmes qui nous sont imposés, n'est-ce pas, par ces gourous, les gourous financiers. Nous ne sommes pas sortis de l'entraille de la colonisation, à commencer par le franc CFA. Bien que nous ayons changé l'appellation, n'est-ce pas, communauté financière africaine, c'est faux. Le franc CFA veut dire colonie française d'Afrique. C'est ça le franc CFA, n'oubliez pas. Et continuez à voir aussi et à s'en apercevoir que jusqu'à présent, notre monnaie continue d'être garantie par le trésor français. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas surtout que nous sommes nos dettes bilatérales et multilatérales continue d'être coté par deux structures venant de la métropole. Il y a le club de Paris et le club de Londres.
Ça fait combien d'années maintenant que ces choses-là continuent? Sauver Afrique, France, demain on est à Dakar, etc., etc. Pendant des années, ça continue et il n'y a pas eu d'impact positif sur le terrain. Et nous, on n'a rien reçu ici, rien de palpable. À longueur de journée, on nous empêche d'immigrer. On nous empêche d'aller en France, on nous empêche d'aller en Espagne, etc., etc. Pendant que dans nos cas, ça brûle, ça chauffe et ça ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle on se rend là-bas. Si on nous donne ce qu'on cherche ici, après la formation, après les études, après l'obtention du diplôme, si on parvient à nous donner quelque chose à se mettre sous les dents, on n'a pas besoin d'aller en Europe. On va rester ici pour faire notre pays, pour bâtir le pays et pour bâtir vraiment l'Afrique tout entière. Donc c'est très important à ce niveau. Donc on veut comprendre un peu les objectifs de sauver Afrique-France. C'est très important. Les objectifs, après les objectifs, maintenant, si c'est pour nous maintenir toujours dans un verrou de colonisation, il faut bien noter, c'est pour nous maintenir toujours dans les rues de la colonisation, je dirais que l'Afrique a de la distance vraiment à parcourir.
Il y a des objectifs de ce sommet Afrique-France qui fut posé en question par mon collègue d'affaires. Bon, sur ce, je vais répondre parce que nous sommes en plein dans la France-Afrique. Ça, c'est en plein dans la France-Afrique. Je ne vais pas vous dire qu'au-delà de bien sommet, il y a eu beaucoup de rencontres entre nous et la métropole, entre nous et l'Hexagone, n'est-ce pas? Je dirais même la même consécration, ou du moins la même concrétisation de la sémantique d'Ontom, dans la perpétuation du système de la domination, n'est-ce pas, du tutelle français sur son précaré africain. L'Afrique n'est jamais monolithique, c'est traversé par une diversité de compréhension et diversité de saisies conceptuelles. Pourquoi on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature? Parce que nous retrouvons toute la diversité des autres continents, des autres parties de l'Afrique au Cameroun, aussi bien dans le climat que dans la constitution sociologique, dans la construction intellectuelle, dans le saisir des idées et dans la façon de formuler, n'est-ce pas, la pensée par rapport à ce qui nous lie à la nature, à ce qui nous lie aux autres êtres et à ce qui nous lie à la divinité. Donc nous pensons, comme si réellement on est dans les scénarios singuliers, nous pensons toujours nos ancêtres les Gaulois. La jeunesse pourrait quand même remettre en scène toute la structure de développement, toute la structure de mentalité.
Dungasa, Kenya, Ani Kofia Kennedy. Nous voilà nous ma sabati, en befin fin en befouillé. Merci, merci, t'en a que fouillé.
Jamana Tehiriwa.